Quiconque ne ressemblera pas à un petit enfant, nous dit Jésus-Christ. Quiconque ne ressemblera pas à Benoît, nous dit Jésus-Christ, ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui caractérise ce qui fait que l'on est adulte? Je me suis posé la question, puisque ce texte fait opposition entre l'état d'adulte et l'état d'enfance. On pourrait dire beaucoup de choses. Je vous propose cette double définition. Un adulte, c'est quelqu'un qui est autonome dans sa pensée, qui est autonome dans ses gestes. Il appartient à l'enfant de devenir autonome, d'apprendre à parler, de maîtriser le langage, d'apprendre à se déplacer, d'apprendre à marcher, d'apprendre aussi à prendre conscience qu'il a une pensée. Et puis, un adulte, c'est aussi quelqu'un qui est responsable, qui devient responsable, qui est responsable de lui-même, de sa santé physique, de sa santé psychologique, et aussi qui apprend, qui n'est pas simplement responsable de lui-même, on entend là bien sûr aussi l'Évangile nous interpeller, mais qui est responsable aussi d'autrui, des autres. Le processus de devenir adulte, c'est de se décentrer de soi-même, de la fusion qu'on a avec sa maman, de couper le cordon ombilical pour comprendre qu'on est appelé aussi, bien sûr, à vivre avec les autres, à s'ouvrir aux autres. Et tout cela, c'est tout à fait noble, autonomie et responsabilité, ce sont des valeurs que nous sommes appelés à partager avec nos enfants, à les guider dans une autonomie et dans la responsabilité. Et moi, en tant que directeur de centre de jeunesse, j'aime bien placer ces deux mots au cœur de mon projet éducatif, responsabilité et autonomie. Et voici que ce matin, l'apôtre Paul nous dit presque le contraire, nous dit, eh bien, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne faut être ni autonome ni responsable en matière de foi et de spiritualité. En ce qui concerne le salut, il faut abandonner notre volonté de maîtrise, de responsabilité et d'autonomie. Il faut redevenir un petit enfant et apprendre à faire confiance. Il faut lâcher prise et s'en remettre entièrement entre les mains de Dieu comme un petit enfant. C'est lâcher prise et s'en remettre entièrement entre les mains de ses parents, sûr de la bonté, de l'amour de ses parents, sûr que ses parents sont dignes de confiance pour le conduire dans la vie. Ouais, peut-être ce qui était profondément provocateur dans l'Évangile, c'est cet appel à faire confiance, cet appel à nous remettre entièrement entre les mains de Jésus, cet appel à ne pas croire que l'on peut par nos propres forces prendre le royaume des cieux, mais qu'il est de l'ordre d'un cadeau gratuit que nous devons accepter. Et en relisant cet épître de Paul aux Corinthiens, il me semble que l'apôtre Paul nous dit que les chemins par lesquels nous serions tentés d'aller dans le royaume des cieux par nos propres forces sont vains. Et je vais tenter de vous le montrer maintenant. Première parole que nous dit l'apôtre Paul dans cet apôtre. Quand bien même vous parleriez le langage des anges, je traduirai ainsi, quand bien même vous tenteriez d'aller dans le royaume des cieux par le biais de la mystique, en tentant d'échapper à votre conscience, en tentant de rejoindre l'inconscient, on sait le chemin de la mystique qui vise à libérer le conscient pour laisser advenir l'inconscient. Alors cela peut passer par la danse, par les trans, cela peut passer par l'absorption de substances très variées. Les Indiens d'Amérique, par exemple, connaissent. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit que ce chemin de la mystique est vain s'il n'y a pas l'amour. Deuxième chemin par lequel nous pouvons être tentés de gagner Dieu, de prendre le royaume des cieux par nos propres moyens, par nos propres forces, nous dit l'apôtre Paul, c'est le chemin de la connaissance, c'est le chemin de la science. Vous auriez toute la science de la terre, vous maîtriseriez tous les langages. Vous seriez le plus grand des plus grands des théologiens, celui qui a la savoir, la parole décisive sur Dieu. Cela ne sert de rien, cela vous conduit à quelque chose de sans issue si vous n'avez pas l'amour. Et l'apôtre Paul poursuit. Vous seriez le plus grand piétiste. Vous auriez une foi extraordinaire, une foi qui vous permettrait de dire à une montagne « déplace-toi » et cette montagne se déplacerait. Vous auriez la plus grande des fois. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Et poursuit encore l'apôtre Paul, autre chemin qui pourra nous laisser croire que par nos propres forces, nous pourrions aller à Dieu. Le chemin de la diaconie, vous seriez le plus grand des diacres. Vous passeriez toute votre vie à servir les plus pauvres, à aller dans le monde entier, dans une ONG ou avec les églises pour vous occuper des plus pauvres. Et même, nous dit l'apôtre Paul, vous donneriez votre vie pour les plus démunis. Si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert de rien. Parole dure de l'apôtre Paul, qui dénonce notre tentative humaine de vouloir aller à Dieu, alors que c'est lui-même, en Jésus-Christ, qui vient à nous. Tout cela ne sert de rien, vous n'êtes qu'un gong qui résonne, si vous n'avez pas l'amour. Mais de quel amour parle-t-on alors? Parce que le risque, c'est de faire de l'amour une nouvelle œuvre alors. Eh bien, dans ces mots de l'apôtre Paul, j'entends ceci: tout cela n'est rien si vous n'avez pas l'amour du Christ, si vous ne recevez pas cet amour de Christ, si vous n'acceptez pas que vous êtes aimé tel que vous êtes, non pas à cause de vos progrès, de vos œuvres, de votre capacité à aimer, mais parce que Dieu est un Père qui aime ses enfants, par définition. Cela ne vous appartient pas, cela ne vous regarde pas, cela est de toute éternité. Dieu aime ses enfants. C'est finalement cette parole essentielle que nous recevons le jour de notre baptême, que Benoît a reçue aujourd'hui, c'est qu'il est aimé gratuitement par Dieu. Bien sûr, il va lui appartenir après de faire fructifier cette parole, de la mettre en pratique dans sa vie. Alors ce que dénonce l'apôtre Paul comme tentative par nos propres forces d'aller à Dieu devient pertinent. Une fois que nous savons aimer, alors nous pouvons prendre le chemin de la foi, alors nous pouvons prendre le chemin de la diaconie, alors nous pouvons prendre le chemin de la théologie, alors peut-être même nous pouvons prendre le chemin de la mystique, mais seulement après. Une fois que nous avons été saisis par l'amour du Christ, parce que nous avons été saisis, alors nous pouvons saisir à notre tour. Certains d'entre vous le savent parce que j'ai fait un culte judo une fois dans ce temple. J'aime beaucoup le judo. Et une chose essentielle dans le judo, c'est le début du combat. Si on ne connaît pas le judo, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Les deux combattants cherchent à s'attraper le kimono. C'est ce qu'on appelle la prise de kumikata. Et c'est tout se joue là. Une fois qu'on a réussi à placer comme on le voulait les mains sur le kimono de son adversaire, eh bien, on a presque gagné le combat parce que la technique, on maîtrise tellement la technique que l'essentiel est fait. C'est pour ça que la plupart du temps, un combat se joue pendant une minute, deux minutes, vous voyez les combattants se lâcher, se prendre les mains, se les renvoyer, parce qu'il s'agit de savoir qui va avoir la bonne prise. Je crois que la foi est de l'ordre, peut-être, de ce combat aussi-là, accepter d'être saisi par Dieu. Et quelquefois, quand Dieu nous saisit, eh ben, ça peut faire mal aussi, parce qu'il nous appelle pas un chemin toujours facile, mais un chemin semé d'obstacles. Et suivre le Christ, c'est aussi affronter les difficultés qu'il nous propose. C'est à la fois être saisi et saisir. Le plus souvent, quand j'ai à commenter ce texte d'1 Corinthiens 13, c'est dans le cadre des bénédictions nuptiales. Et la dernière bénédiction nuptiale que j'ai célébrée dans ce temple, j'ai eu à commenter ce texte d'1 Corinthiens 13. C'est la première fois, je crois, que j'ai à le commenter pour un baptême. Et c'est grâce à Audrey, merci à Audrey et à Brice qui ont choisi ce texte. Et je trouve ça finalement tout à fait pertinent. Et Audrey m'a dit, voilà, j'envisage ce texte d'1 Corinthiens 13 comme une aide, comme une manière d'envisager la possibilité que j'ai d'accompagner mon enfant, de l'élever. Évidemment, au cœur de cet accompagnement, il y a l'amour. Et en relisant ce texte, il me semble qu'il y a trois mots peut-être qui doivent nous aider à accompagner les enfants qui nous sont confiés, nos enfants ou nos petits-enfants pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus âgés. Premier mot que je relève dans ce discours de l'apôtre Paul, c'est le mot de patience. Élever les enfants, les accompagner appelle à la patience. Qui, dans un train, dans un TGV, n'a pas été à bout de patience quand deux, trois petits-enfants commencent à crier? Et on se dit, mais que font les parents, que font les grands-parents? On est saisi d'impatience. Appel à la patience. Mais appel à la patience parce que, comme je vous le disais, passer de l'état d'enfance à l'état d'adulte, c'est gagner en autonomie. L'autonomie, ça prend du temps. Et quelquefois, on voudrait que ça aille plus vite, que les enfants comprennent plus rapidement les lois qu'il faut qu'ils intègrent. Et puis, tous les enfants n'ont pas le même temps. Alors, il nous faut apprendre la patience et relire les évangiles et voir combien le Christ a été patient vis-à-vis de ses disciples. Il ne comprenait pas ses paroles. Il ne comprenait pas qu'il était le Messie. Mais il leur a laissé le temps de comprendre. Le temps venu, les disciples ont confessé, certains plus rapidement que d'autres, que Jésus-Christ est bien le Christ, le Seigneur. La patience pour nos enfants. Le deuxième mot, on le convoque moins souvent, je crois, quand il s'agit d'enfants, et pourtant c'est un très joli mot que convoque l'apôtre Paul, c'est le mot de bonté. L'amour, c'est faire preuve de bonté. Quand on pose le mot de bonté, vient à nous évidemment le chapitre 10 de l'évangile de Jean où il nous est dit que le Christ est le bon berger. Qu'est-ce qu'un bon berger? C'est un berger qui connaît ses brebis. C'est un berger qui les guide vers de verts pâturages. C'est un berger qui sait placer ses brebis en sécurité afin qu'elles puissent s'épanouir. Voilà aussi notre rôle de parents, de grands-parents, d'éducateurs. De pouvoir placer les enfants qui nous ont confiés dans des situations de sécurité psychologique et physique afin qu'ils puissent s'épanouir. À nous aussi de pouvoir les conduire vers des espaces, des lieux, des projets de vie où ils puissent véritablement s'épanouir. Puis la bonté, je crois que c'est une disposition de cœur. C'est vouloir le meilleur pour ceux qui sont proches de nous. C'est proche finalement aussi de la bienveillance. Patience, bonté, et puis le troisième mot que je lis dans ces paroles de l'apôtre Paul, c'est le mot de vérité. Comment être des parents, des grands-parents véritables devant nos enfants, nos petits-enfants? Certainement pas en leur disant toute la vérité, il y a un temps pour tout, il y a des paroles que nous ne pouvons pas dire, des préoccupations que nous ne devons pas, que nous ne pouvons pas partager avec les enfants, et c'est bien normal, c'est à nous de les porter en tant qu'adultes. Donc être véritable, ce n'est pas dire toute la vérité, ce n'est pas être dans la transparence, comme on nous le dit aujourd'hui, tout doit être transparent, je ne le crois pas. Être véritable devant nos enfants, nos petits-enfants, c'est accepter de nous présenter devant eux avec nos faiblesses, avec nos limites, avec nos incohérences. C'est les laisser, comme nous le dit la psychanalyste, tuer le père, tuer la mère, qu'ils découvrent que nous ne sommes pas tout-puissants, mais que nous sommes faillibles. Et c'est ce à quoi nous exhorte l'Évangile, en nous disant que chacun d'entre nous, nous sommes pécheurs, mais justifiés par la grâce de Dieu. Accepter d'avoir tort, et en préparant ce culte, je me suis posé la question, cruelle question, est-ce qu'une fois j'ai demandé pardon à mes enfants? Est-ce que je reconnais une fois honnêtement devant eux que j'avais tort? Moi, j'en suis pas sûr. Être véritable devant nos enfants, c'est aussi savoir leur demander pardon. Les propos de l'apôtre Paul sont magnifiques, nous exhortent à l'amour, à la vérité, à la patience, mais aussi l'apôtre Paul nous fait une magnifique promesse et c'est la fin de ce texte de 1 Corinthiens 13. Souvent dans les mariages, d'ailleurs, ce texte, la fin du texte est coupée. Il n'est plus question d'amour, donc c'est plus très important. Mais aujourd'hui, Audrey et Brice ne l'ont pas coupé. Et j'en suis fort heureux, parce que ces paroles sont essentielles. L'apôtre Paul nous dit qu'aujourd'hui, nous ne voyons que de manière limitée le royaume des cieux. L'Esprit Saint nous est donné, mais notre nature humaine nous empêche de le contempler. Nous sommes encore dans le temps de l'histoire, mais viendra un temps, le moment du royaume, où nous pourrons voir Dieu face à face, nous pourrons comprendre les vérités spirituelles en tant qu'adultes, autonomes et responsables, non plus en tant qu'enfants dans la foi. Il y a cette magnifique parole que nous avons partagée d'ailleurs, Audrey. Alors, nous pourrons connaître comme nous sommes connus, alors nous pourrons voir Dieu face à face. Finalement, le baptême de Benoît doit lui rappeler cette parole essentielle. En attendant le royaume où il pourra voir Dieu face à face, en attendant le royaume où il pourra connaître Dieu dès maintenant, il reçoit cette bonne nouvelle sur sa vie, c'est qu'il est connu et aimé par Dieu. Au travers du baptême de Benoît, nous recevons aussi personnellement cette parole, que nous sommes connus et aimés de Dieu. Amen.